Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque, vous le savez, leurs principes de vie, leurs trucs, leurs astuces, leurs rituels, leur philosophie même. Et mon objectif, c'est de vous aider à progresser via l'aide de ces mentors virtuels et à devenir la meilleure version de vous-même. Mais passons maintenant à mon invité du jour. Pour ce 100e épisode, il me fallait évidemment une personnalité très spéciale. Et pour tout vous dire, j'ai beaucoup hésité, j'ai mis énormément de temps, j'ai demandé autour de moi. Et puis finalement, après des semaines de tergiversations, un petit Covid au passage, j'ai eu une illumination. Il fallait tout simplement que j'invite pour un deuxième round l'un des invités qui vous avait le plus marqué sur le gratin. Et cet invité, c'est Philippe Bloch. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Philippe a déjà eu mille vies, entrepreneur, fondateur de la chaîne Columbus Café, auteur, journaliste, conférencier ou encore investisseur. Philippe, c'est un peu un slasher professionnel et surtout un éternel optimiste. Vous pourrez le retrouver d'abord sur son site internet, Philippe Bloch, bloch.com, ou pourquoi pas sur son compte Instagram ou son compte LinkedIn où il est aussi très actif. Je vous mets en tout cas tous ses contacts, ne vous inquiétez pas, dans les notes de l'épisode sur le blog du podcast. Alors aujourd'hui, j'ai réinvité Philippe pour un épisode un petit peu particulier où on a avant tout parlé d'espoir, un sujet que j'aime beaucoup. En pleine crise du Covid, touché de plein fouet dans son activité de conférencier, Philippe me partage sa vision pour le monde d'après. Il m'explique en quoi la distanciation physique ne doit en aucun cas devenir une distanciation sociale. Cette vision, Philippe l'a traduite dans un livre qui sortira début juillet 2020 et qu'il nous dévoile en avant-première dans l'épisode. Je vous mets également tous les détails sur le blog du podcast. Enfin, nous avons profité de ce moment ensemble pour aborder un sujet qui me passionne, la prise de parole en public. Je ne suis pas née comme quelqu'un qui était sûr de moi à l'idée de parler en public. Eh bien, ne vous inquiétez pas, ça s'apprend. Vous êtes nombreux à me poser des questions dessus. Et je peux vous dire qu'après 3000 conférences à son actif, Philippe est passé maître en la matière et nous dévoile ici toutes les astuces pleines de bon sens pour devenir un orateur hors pair. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Philippe Bloch. Salut Philippe, bienvenue à nouveau sur le gratin.
Bonjour, comment vas-tu ?
Eh bien ça va, on est à distance, certains vont peut-être l'entendre, mais le son est plutôt pas mal, je crois. En tout cas, je suis vraiment ravie de t'avoir sur le podcast, même si on n'est pas côte à côte malheureusement.
Je suis ravie de te retrouver, Pauline.
Écoute, je voulais t'inviter, Philippe, parce que tu sais, on en a parlé, je vais fêter mon 100e épisode ensemble. Et je voulais le faire avec toi parce que notre conversation a été vraiment l'un des épisodes les plus partagés du podcast, notamment parce qu'il est hyper positif et on connaît ton optimisme légendaire. Et donc, j'ai pensé qu'en cette période en particulier, ça serait, enfin, même si la période maintenant la plus dure est un peu passée, mais j'ai pensé que ça serait forcément une belle revanche. Et donc, organiser une seconde manche serait de bonne aloi.
C'est ce que t'appelles mettre la pression, là, dis donc.
Ouais, mais non, écoute, ça c'est... Écoute, je voulais te le dire parce que ça me fait vraiment, vraiment plaisir de t'avoir. Mais du coup, si ça te va, comme t'as plein d'actu, ce que je me suis dit, c'est que cette fois-ci, on va peut-être en parler parce que la dernière fois, au fond, on a quand même beaucoup parlé de ton passé et pas tellement de ce qui t'occupe aujourd'hui. Donc, si ça te va, pour commencer, je voulais entrer dans le vif du sujet et discuter tout simplement de ton nouveau livre. Tu m'as dit que t'en écrivais un, ou que je crois qu'il est en train d'être finalisé, si je me trompe pas. Et un truc que j'ai trouvé assez incroyable dans ce que tu m'as dit, c'est qu'en gros, t'as un peu profité du confinement, si je puis dire, pour t'enfermer pendant 2 mois pendant cette période, écrire presque d'un trait. Je voulais comprendre en gros qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui t'a poussé à nouveau, puisque c'est, je crois, au moins ton 7e livre, à te plonger dans l'écriture. 8e livre, ouais, incroyable. Ouais.
Écoute, ce qui s'est passé, ce qui est dingue, c'est qu'avec le recul, enfin, on va raconter tout ça, mais tu te souviens d'un dimanche qui était, je crois, le 15 mars ou le 16, je sais plus.
Oui,
c'était
juste
le 15,
avant
le dimanche, non? C'était le 15, le dimanche, il me semble. C'était ce magnifique dimanche de printemps à Paris où on savait qu'on allait être assigné à résidence puisqu'on nous annonçait ça le samedi soir, tu te souviens? Et on savait qu'à partir du lundi ou du mardi, c'était cuit pour nous, sans aucune visibilité sur ce qui allait se passer. Et je fais partie de ces couillons qui sont sortis profiter du soleil de printemps.
Mais t'as bien fait.
T'as bien fait.
Je sais pas si faut dire ça, mais.
Je m'étais dit, mais ça a beaucoup été reproché. Tu te souviens, on a beaucoup reproché aux Parisiens d'être sortis dans les parcs, sur les quais de Seine. J'ai marché pendant 2h30 dans Paris, ce qui m'arrive quasiment jamais. Et puis, j'ai trouvé que Paris était beau, que Paris était sympa, Paris était différent, etc. Et l'idée du bouquin est venue à ce moment-là en disant, mais dans quoi est-ce qu'on est en train de s'embarquer? Il se passe un truc là qu'on n'a jamais vu. On est une démocratie. On nous dit, les gars, maintenant, vous vous enfermez chez vous, il n'y a pas de négociation, sinon vous aurez des PV, des amendes. Ouais. Et je me suis dit, mais tout ça va tout changer. Et comme en plus, il y avait cette espèce d'angoisse quand même qui commençait à monter avec cette maladie.
Et puis, on ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer. Enfin, je pense que personne à l'époque connaissait du tout l'ampleur. Ça a été quand même assez abrupt, je trouve.
Oui, et puis surtout qu'on s'embarquait dans un truc sans aucune forme de visibilité. Je crois que le côté le plus difficile, on n'en est pas encore complètement sorti au moment où on enregistre ça ensemble. Enfin, on en sort très bientôt, mais on va se déconfiner progressivement. C'est qu'on ne savait pas du tout ce qui allait nous attendre. Et là, je me suis dit, et si ce truc était ce qui pouvait tout changer? C'est complètement con, mais je me suis dit, il va se passer un truc. Il se trouve qu'une semaine après, moi, j'étais confiné, comme tout le monde, à Paris, chez moi. Et puis, pour des raisons personnelles, un peu embêtantes, parce que j'ai perdu mon papa il y a un an. Ma mère est d'Alzheimer, elle est dans le sud de la France, elle est assez malade, et ma sœur s'en occupe. Et ma sœur a un peu craqué, en gros, une semaine après le début du confinement. Donc, je me suis expatrié de Paris dans un vol vide. J'ai pris le premier vol, plutôt le dernier vol Paris-Nice, EasyJet, un vendredi soir, avec 4 personnes dans l'avion. J'étais pas sorti pendant une semaine, et là, j'ai commencé à découvrir ce qui est en train de nous tomber dessus, c'est-à-dire la peur de l'autre. Non pas que moi, j'avais peur des autres, mais que les autres avaient peur de moi. Ce que j'avais jamais vécu encore, qu'on voit tous aujourd'hui quand on se promène dans les rues. Mais c'était la première fois que je le découvrais. Et puis, je me suis mis, donc, ça fait donc 5-6 semaines, cette semaine, je crois, que je suis dans le sud de la France, tout seul, sans mon épouse, qui, elle, est dû rester à Paris. Et je me suis dit, effectivement, c'est peut-être le truc, l'événement le plus transformateur, ou au contraire déstructurant, destructeur en fait de l'histoire récente, et que ça va peut-être pas y réfléchir. Eh bien, je m'y suis mis, ça donne un bouquin qui sort le 2 juillet. Voilà, c'est
incroyable.
Aussi bête que ça.
Non, mais attends. Alors, attends, j'ai 1000 questions. Donc,
alors, vas-y, tu peux.
Concrètement, maintenant, je veux rentrer dans le fond, parce que donc, je comprends le process et je le trouve assez magique en termes d'histoire. Enfin, je comprends complètement ce que tu décris. Je pense qu'on est tous passés par ce questionnement, ce cheminement. Mais de là en faire un livre, du coup, quelles sont les questions que tu poses? Quels sont les sujets que tu apportes dans le livre? Si on peut en parler justement un tout
mais
petit
oui,
peu en primeur.
Bien sûr, bien sûr. Écoute, d'abord, ce que j'ai fait, c'est que c'est du jus de crâne. Hein. Je trouve ça d'abord, je voudrais dire à tous ceux qui nous écouteront que c'est d'une incroyable prétention, mais qui me ressemble pas, j'aimerais leur dire, qui croient que comme ça, le mec a tout compris, au bout de 2 mois, en plein truc, il sort un bouquin, etc. Mais je pense j'essaie d'être un petit peu le creuset de tout ce qu'on a ressenti, en regardant la télé, en ne la regardant pas, en faisant cette pause absolument incroyable, en plongeant dans un autre usage de notre temps, qu'on n'avait jamais vécu de notre histoire, nous tous. Tu as beaucoup d'entrepreneurs parmi tes auditeurs qui sont des gens qui depuis toujours vont d'un train à un autre, d'un emmerdement à un autre. Et puis tout d'un coup, la vie s'arrête. Les appels sont moins nombreux. On n'a plus de rendez-vous. On a moins de visibilité. On commence à s'inquiéter pour sa boîte, pour sa famille, pour son truc, etc. Et donc, je me suis mis un petit peu, j'étais une éponge. J'ai lu énormément de trucs. Pas de bouquins. J'ai lu tout ce que tout le monde écrivait sur ces sujets en ce moment. Et puis du coup, je me suis dit, mais au fond, finalement, on tombe tout le temps autour de pas tellement d'interrogations que ça, mais qui sont toutes profondes. C'est-à-dire, moi, j'ai identifié, pour ne rien cacher, il y a 14 chapitres dans le bouquin, qui sont chaque fois, pour moi, des choix, à mon avis, qu'on va tous devoir faire collectivement et personnellement, après cet épisode, qui est plus qu'un épisode, hein, mais qui est après cette parenthèse. Et en fait, c'est ça l'idée, simplement, c'est tous ces thèmes de société, qui sont des thèmes sur l'économie, sur la morale, qui sont des thèmes sur la mort, qui sont des thèmes sur la liberté, sur le découragement, sur l'unité, sur les fake news, sur la politique, le populisme, le danger d'une Europe avec Viktor Orban, dont personne ne peut avoir envie. Enfin, tu vois, toute une série de sujets de fond sur lesquels je pense que les réponses qu'on apportera vont créer un monde différent, j'espère meilleur. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'avenir nous appartient et on a une occasion incroyable de le réinventer.
Justement, tu aurais au sein, alors sans forcément, tu vois, rentrer dans le détail, mais quand même pour que ça soit un peu plus pratico-pratique, un peu plus concret, t'aurais un exemple de l'un de ces 14 points que t'abordes dans le livre et comment justement tu l'abordes et quelles sont tes réflexions dessus?
Bah, je crois que je parlais du temps retrouvé. Il y a un chapitre pour ne rien te cacher qui s'appelle tout le bouquin est construit autour de quelque chose versus something else. Tu vois un petit peu deux idées. Un des chapitres, c'est courir après le temps versus le temps retrouvé. Ça me paraît important de voir ce qui s'est passé pendant cette période. Je suis absolument estomaqué du nombre de mes copains qui ont découvert forcément un peu obligatoirement le télétravail. Qui n'ont aucune envie, mais aucune envie, de retourner à la fois dans le bureau parisien où ils ont vécu quasiment les 20 dernières années de leur vie, dans une ambiance qui va pas forcément être très bonne tout de suite. Et ils sont aperçus qu'ils bossaient beaucoup mieux, qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont remis en cause des choses dont ils pensaient jamais qu'ils allaient les remettre en cause un jour, au point d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux de repenser même leur cadre de vie. Enfin, je pense que... tu as dû voir comme moi l'explosion sur les sites internet des recherches de petites maisons avec jardin, accès au débit, soins et maison à la campagne. Qui va encore vouloir être dans Paris, un Paris qui va être assez compliqué quand même, parce qu'il faut quand même bien se rendre compte, là je fais le gars optimiste, mais enfin on va là dans les quelques semaines à venir vivre un cauchemar. Enfin, il faut quand même être bien conscient que on rentre dans quelques semaines qui vont être d'une difficulté économique, de qualité de vie phénoménale, sur lequel justement toute notre énergie d'entrepreneur va faire une immense différence. C'est-à-dire qu'on va devoir prendre beaucoup, beaucoup sur nous et montrer une résilience absolument phénoménale. Donc quelque part, d'abord, cette espèce de retour sur soi-même. Tu sais, Jean d'Ormesson beaucoup écrit sur l'ennui. Alors j'ai relu des choses de sa part, et il dit que tous les grands projets sont nés dans l'ennui, en fait. Et c'est un truc qui aussi m'a fait beaucoup réfléchir. C'est d'ailleurs assez marrant parce que avant d'écrire ce bouquin, j'avais envie d'écrire un bouquin sur la notion de projet. Parce que c'est un truc qui me fascine, c'est les gens qui n'ont pas de projet. Si tu en connais.
Je suis d'accord avec toi, c'est assez rigolo. Il y a beaucoup de gens qui me disent, parce que moi aussi, je suis un peu comme, enfin, sans prétention, je suis pas comme toi, mais je veux dire, j'ai quelques projets quand même, et j'adore avoir des projets. Et pour moi, trouver de nouveaux projets n'est plutôt pas un problème. Mon problème, c'est plutôt de le choisir et de trier. Mais il y a effectivement des personnes pour qui c'est l'inverse, et je trouve ça très intéressant de se dire qu'en fait, on est quand même pas câblés tous de la même manière, et qu'il y a des personnes, leur problème, c'est réussir à faire des choix, et d'autres personnes, c'est réussir à finalement à être suffisamment curieux, tu vois, d'une certaine manière.
On a été confronté là à un truc qui est incroyable, c'est la reconnexion à l'éternel d'un quotidien identique qu'on n'avait jamais vécu. Et tu as des gens qui vivent comme ça toute l'année. Et en fait, c'est assez incroyable de voir à quel point il y a deux façons de vivre ce type de parenthèse qui nous a été infligée. C'est de faire fourmiller des projets, des envies, de l'énergie. Et je crois que c'est ça qui est en train de naître, en fait. Et je pense que quelque part, le retour de la notion de projet, tu sais bien qu'aucune boîte ne peut vivre sans un projet. Aucun pays ne peut vivre sans un projet. Et d'ailleurs, ça va être un de nos gros problèmes, c'est que je crains qu'on n'ait pas demain, d'ailleurs, les dirigeants politiques capables de trouver un projet qui nous rassemble. Et je pense qu'il va rencontrer tout seul ce projet qui va nous rassembler. C'est que chacun d'entre nous va contribuer au projet commun en passant pas par les politiques, à mon avis, demain. Mais ça va être un sujet intéressant de voir comment on va s'en sortir. Mais donc, la notion d'émergence de l'envie de projet dans cette période un peu de repos est absolument fascinante, et à mon avis va générer des initiatives absolument phénoménales. Il y a l'idée de la, évidemment, je peux revenir sur la mondialisation parce que on va avoir un vrai débat là-dessus quand même. Est-ce que cette crise est toujours une crise du libéralisme? C'est très con, mais c'est un vrai sujet qu'il faut qu'on traite. Parce que si on pense qu'effectivement elle vient du libéralisme, on n'a rien compris au film. Et quelque part, heureusement qu'on l'a en ce moment pour trouver un vaccin rapidement, avec des chercheurs qui dans le monde entier sont en train de partager par le cloud et l'ensemble de technologies toute une série d'initiatives qui vont nous permettre peut-être de sortir plus vite de cette crise. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas remettre en cause les excès de ce libéralisme qui a été excessivement financier, drivé par des recherches exclusives complètement dingos de rémunération du capital qui étaient insensées, etc. Il est clair aujourd'hui qu'on va relocaliser tout ce qui est stratégique. On va commencer à comprendre qu'on peut pas dépendre d'un pays comme la Chine qui est quand même, d'ailleurs, qui me fascine, hein, quand même, parce que dans cette histoire, ils ont quand même été absolument incroyables. C'est incroyable ce qui a été réalisé en Chine. C'est-à-dire qu'on a là un pays qui a finalement laissé échapper un truc, absolument incroyable, qui a caché, qui a menti, qui aujourd'hui est en train d'asseoir son influence dans l'ensemble du monde pour profiter de l'absence de leadership américain, avec une Amérique qui, pour la première fois, n'est plus active au niveau d'une crise mondiale. C'est la première fois de l'histoire depuis les 200 dernières années. Donc on a une redistribution des cartes qui est absolument phénoménale. On a vraiment des enjeux qui sont fabuleux, en fait, je trouve, et qui vont absolument changer beaucoup de choses. Regarde ce un autre sujet qui m'a beaucoup frappé, c'est ces fameux héros du quotidien qu'on a applaudi tous les soirs de nos fenêtres, ouais. Un peu comme pour se faire pardonner de se faire livrer nos courses sur le pas de notre maison sans prendre de risque, parce que c'est quand même globalement ça. Je voyais sur une chaîne américaine un reportage disant nos grands-parents étaient partis au front, on vous demande juste de rester ouais. sur votre canapé, vous devriez pouvoir
c'est
y arriver.
Clair. C'est marrant,
je m'emporte.
Non, mais justement, je trouvais ça intéressant. En fait, moi, la notion de courage, c'est une notion qui me parle pas mal. Et c'est vrai que je pense que le courage naît aussi nécessairement quand il y a de la peur, hein, malgré tout, parce que si jamais on n'a pas peur, a priori, il n'y a pas besoin de courage. Et en fait, ce que je trouvais intéressant dans ce que tu disais à l'instant, c'est que finalement, on je pense que beaucoup de gens ont peur et on peut pas les blamer, mais il y a aussi du coup une forme de pas d'absence de courage, mais voilà, il y a quand on prend un peu de recul quand même par rapport notamment à ce qui s'est passé il y a 50 ans encore ou 70 ans pendant la Seconde Guerre mondiale, moi il y a beaucoup de personnes en fait qui ont parlé de guerre, qui ont parlé du fait que voilà, bah c'était finalement quelque chose qui se rapprochait au sens où nos grands-parents, nos parents avaient peut-être vécu cette période-là en étant aussi enfermés, et quand ils pensent je trouve que la comparaison est assez rude parce que pour le coup, ça a duré 4 ans, je pense que les conditions étaient quand même pas les mêmes, et puis comme tu le dis, en fait la technologie, le fait qu'il y ait un nombre de services maintenant qui font que bah on a quand même largement de quoi manger, boire, etc., font que c'est assez compliqué, je trouve, de faire cette comparaison.
Tu observes alors que le mot guerrier a été très vite abandonné en fait. C'était au début. Pardon, je veux pas t'interrompre, mais et d'ailleurs tu observeras aussi, c'est assez intéressant. Tu as sans doute vu que les 8 pays qui ont le mieux géré sont tous dirigés par des femmes.
Ah, c'est intéressant.
Angela Merkel, en Nouvelle-Zélande, à Taïwan. Tous ces pays sont dirigés par des femmes et il se trouve que aucune n'a eu de langage guerrier. Elles ont eu un langage beaucoup plus beaucoup plus doux, beaucoup plus attentif, beaucoup plus empathique. Je crois que c'est l'une ou l'autre ont fait des conférences de presse pour les enfants, uniquement pour les enfants, pour rassurer les enfants.
Ouais, pour expliquer.
Et en face de ça, tu as des Bolsonaro qui en gros mettent les journalistes en prison, des Viktor Orban qui prennent le pouvoir, des espèces de dictateurs qui se développent un peu partout dans le monde. Donc tu commences à voir l'émergence en fait de deux types de pouvoir, et on voit bien l'émergence d'une forme nouvelle d'empathie, de retour des valeurs humaines dans ce qui fonctionne, etc. Ouais. Et le langage guerrier n'a pas fonctionné, pour revenir sur cette histoire de guerre. Et c'est vrai que c'était pas une guerre, fondamentalement. En plus, je rappelle quand même que pendant la guerre, il y a destruction des biens. Là, tout fonctionne, globalement.
Bien
les
sûr.
Réseaux sont là, les maisons sont là, les ponts sont là. Il faut juste qu'on... Tu sais, je prenais un peu l'image quand tu pars en vacances, un peu comme ça, pour une durée indéterminée. Puis si t'as une maison de campagne, tu reviens, il y a eu de la flotte dans le garage parce qu'il a plu. Il y a une panne d'électricité qui fait que t'as des trucs qui sont pourris dans le frigo. Bon. Il faut juste remettre en marche. Je dis pas qu'il faut juste remettre en marche, mais globalement, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire on s'est dit, tiens, on va partir,
oui,
on ferme
pause,
l'économie.
Quoi.
Voilà. On ferme l'économie, on s'est hiberné, on s'est mis en hibernation. Et donc, il n'y a aucune raison de croire que ça va pas redémarrer. Il va y avoir des vrais sujets parce qu'il y a quelque part des ressources qui sont moins nombreuses, des gens qui sont au chômage à l'évidence. Mais je pense qu'on peut redémarrer d'une manière absolument phénoménale. Tu as insisté sur la peur, c'est sans doute une de mes principales craintes. C'est que moi, mes deux premiers chapitres sont sur le rapport à la mort et sur le principe de précaution. Je pense qu'on a quand même un sujet là-dessus qu'il faut qu'on traite. Tu sais, je me baladais là où je suis confiné, dans le rayon 1 km auquel j'ai droit, avec mon Ausweis bien signé et bien daté et bien avec le bonheur.
Ouais.
Et chaque fois que je croisais des gens en train de faire du jogging, moi, je suis plutôt un gars sympa, j'aime bien sourire aux gens, attraper leur regard, leur dire bonjour, un petit coucou. Pas un.
Ah oui, non, là, au contraire, tu détournes.
Ne captait mon regard, ni ne me disait bonjour, ni me disait on est dans la même merde, mais on va y arriver. Ils étaient tous dans leur bulle d'égoïsme, de peur, de trouille, qui me fascine, qui me fait peur, pour le coup, parce que ça, il faut qu'on en sorte très vite.
Mais tu crois pas que c'est aussi très, en fait, comment dire, c'est un peu social, c'est-à-dire que, tu vois, moi, je vois au contraire beaucoup de solidarité sur les réseaux sociaux, beaucoup de liens qui se sont créés, etc., au travers, évidemment, d'une caméra ou d'un écran, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça n'est pas, comment dire, acceptable socialement, si tu veux, à l'extérieur, et c'est, je pense, aussi beaucoup ça, c'est même pas forcément de la peur, tu vois, c'est presque plus de la peur sociale, entre guillemets.
Je pense que c'est de la peur physique. C'est de la peur physique, c'est-à-dire que vraiment ils ont une trouille bleue. C'est-à-dire que je voyais des gens qui étendaient leurs bras de part et d'autre pour faire montrer ce que veut dire un mètre, tu vois, pour dire vous vous éloignez, etc. J'ai vécu des trucs de dingue. J'ai un de mes copains qui est d'origine asiatique, qui habite à Paris, qui m'a envoyé une photo d'un d'un portail chez lui avec une chaîne métallique de quelqu'un qui a mis un soir une chaîne métallique pour les éviter de sortir. Ouais. C'est une famille donc d'origine asiatique pour qu'ils se disant, tu te rends compte jusqu'où va la haine de l'autre qui est possible dans ce truc? Si on s'engouffre là-dedans, on est cuit.
Alors, la peur, ouais, c'est le pire déclencheur de la haine. Ouais.
Et la peur, c'est très bien, parce que finalement, la peur, c'est comme la fièvre avec ce coronavirus, ça permet de faire partir le virus, mais la peur, ça permet de déclencher des bons réflexes, mais quand c'est de la peur excessive, quand c'est... Regarde ce qui s'est passé avec le professeur Raoul, cette espèce de fou furieux dont on saura jamais s'il avait raison ou pas, dont les Français... C'est la première fois de ma vie que je vois les Français qui étaient d'accord pour faire un truc qui risquait d'être dangereux, qu'on n'ait pas testé et de le mettre en œuvre, ce qui est d'ailleurs assez incroyable, parce que pour le coup, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé un peu de courage. Mais on s'aperçoit quand même que globalement, on a un rapport au risque, et là, on se parle entre entrepreneurs, si on avait un rapport au risque identique à celui qu'on est Français en ce moment entre eux, mais c'est la mort du pays, ça n'a aucun sens. Et là, il faut vraiment qu'on y arrive, nous, à montrer que le risque, c'est la vie, que la mort, c'est la vie aussi. Enfin, il faut aussi le rappeler quand même. Il y a quand même des sujets, il faudra qu'à un moment qu'on débatte de savoir si c'était la bonne solution, ce qu'on a choisi, sur ce
tout à fait.
Parce qu'il y a un moment, moi, quand je vois qu'il y a en gros 15 médecins pour un économiste sur un plateau télé et aucun historien, c'est intéressant, je sais pas si t'as remarqué, t'as aucun historien qui dit, maintenant, il y a eu beaucoup de, il y a eu la peste, il y a eu la fièvre espagnole, etc. Personne ne prend le recul et on écoute des mecs qui sont des médecins que je respecte beaucoup, qui ont sauvé bien des vies pendant cette période, mais qui nous ont infantilisés à un point qui est extrêmement dangereux pour la suite des événements si on fait pas le job de dire, allez, on y va, les gars, on retrouve le sens du risque, l'envie de faire des choses, Il faut qu'on y aille tous très vite,
Complètement. Bah, écoute. Mais du coup, en fait, justement, ça fait peut-être une transition avec la question que je voulais te poser sur le livre, qui est globalement, au fond, quel est le message que tu souhaites faire passer avec ce livre? S'il y avait un message fort, tu vois, en gros, quelle est vraiment ta conviction et ce que tu as envie de partager?
Moi, je pense que le message fort, c'est que tout ça n'aura servi à rien si on a regardé Netflix au lieu de réfléchir. Pour faire court. C'est-à-dire que je pense qu'on a l'opportunité exceptionnelle de faire changer durablement, profondément, tous ensemble, sans passer forcément par le politique, des choses qui étaient un peu dans l'air depuis longtemps et qui sont en train un peu de s'agglomérer autour d'un tout qui veut plus rien dire si on n'arrive pas à prendre le temps d'analyser. Je m'explique. Il y a des gens qui vont te dire c'est une crise écologique. C'est pas une crise écologique, le virus. Il y a pas de raison officielle que ce virus soit lié à la dégradation du climat ou au CO2 dans l'atmosphère. On va commencer à faire des amalgames dans tous les sens. Pour autant, il y a une telle secousse. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce qui vient nous arriver à tous, c'est que le terreau est prêt pour que les gens commencent enfin à réfléchir et agissent sur des sujets sur lesquels dont on parlait depuis longtemps, mais qu'on traitait pas. C'est-à-dire l'écologie en est un. La planète est en est un. Simplement, on est quand même les champions de dire c'est génial et de rien faire vraiment pour la préserver dans notre comportement personnel. Tu vois, je te prends un exemple. Il y a un chapitre qui s'appelle décroissance versus haute croissance. Moi, je veux te dire, je suis typiquement le gars, et j'en ai honte, qui franchement, j'étais pas passionné par le thème de la décroissance jusqu'à présent. Je suis plutôt un jouisseur, j'aime voyager, j'aime parcourir le monde, j'aime acheter des trucs. Je flanque pas, mais j'aime découvrir des choses, j'aime la vie. Et là, je me suis dit, attends, d'abord, je viens de vivre 2 mois en n'achetant rien. Bon, non pas que j'achète grand-chose, mais rien acheter à part me nourrir et me divertir un petit peu et bosser. Est-ce que j'ai moins bien vécu? Franchement, pas forcément. Est-ce que j'ai pas découvert dans mes placards des trucs que j'avais complètement oublié que j'avais, qui sont finalement pas mal du tout, dont je peux me servir? Est-ce que chaque année, moi qui comme un couillon achète le nouvel iPhone parce que je suis un peu geek et que ça m'amuse, je me dis franchement, est-ce que pour avoir quelques pixels de plus... ça vaut la peine quand j'ai compris tout ce qu'il y a dans cet iPhone qui dévore la planète, qui peut-être je peux essayer de skipper une fois de temps en temps un iPhone pour le prendre dans 3 ans ou l'acheter recyclé. Je m'étais jamais interrogé là-dessus. Et là, je pense que ça va changer. Je pense que ça va changer pour plein de gens. Non pas que la crise du coronavirus soit une crise de croissance, mais à un moment, si tu veux, tu remets. On a une occasion phénoménale de remettre des choses en place. Et petit à petit, de contribuer peut-être à ce grand débat sur la planète qui est le prochain, globalement. Je pense que c'est le grand drame d'après, ce sera celui-là, globalement. Donc, il faut qu'on s'en occupe aussi. Mais je pense que ça nous rend d'une grande humilité, finalement, tout ça. Ça nous rappelle qu'on est mortel, ça nous rappelle qu'on est fragile, ça nous rappelle que la vie était belle avant aussi. On va peut-être se calmer un peu, à râler tout le temps. Enfin, je sais pas si t'es d'accord, mais regarde à quel point tout le monde a qu'une envie, c'est de revenir à la vie d'avant. Alors qu'on n'arrêtait pas de la critiquer, que les mecs qui avaient les gilets jaunes détruisaient les ronds-points, je pense qu'ils vont se calmer un peu, je l'espère, ceux-là aussi, parce qu'il y a un moment quand même, il faut reconnaître qu'on n'était pas si mal avec dans la vie d'avant, la vie libre d'avant. Ça fait du bien quand même, tu vois, ça, je trouve. Ça remet vachement les choses en place. Donc, le message, puisque tu voulais que je résume, c'est sur tous les sujets de fond, est-ce qu'il va y avoir plus de ressentiment finalement que d'unité entre les Français, parce que tu as des lignes de fracture qui s'améliorent, qui sont en train de s'installer entre les Français en ce moment. Tu as déjà une ligne qui est en train de s'installer entre ceux qui vont avoir envie de revenir leur bagnole, ressortir leur bagnole dans Paris pour éviter d'être dans les métros, et puis tu auras les écologistes qui vont dire non, il y aura plus de bagnole du tout, il faut plus, vous êtes des horribles mecs s'il vous plaît. La France continue à s'archipéliser un petit peu, donc tout ça sont des sujets importants, donc il faut qu'on traite chacun de notre côté un peu les sujets sur lesquels on a de l'influence personnelle, l'histoire de l'iPhone, l'histoire de continuer peut-être à boire des bouteilles d'eau en plastique, je donne cet exemple au hasard, et puis globalement des tas de sujets qu'en commun il va falloir qu'on décide. L'Europe, c'est un truc moi qui me fascine. De quelle Europe est-ce qu'on, absence globalement totale de l'Europe, absence de solidarité totale de l'Europe dans cette histoire, on a déjà abandonné les Italiens avec les réfugiés syriens, après on leur a dit bon, c'est des trucs italiens votre coronavirus, et puis tout d'un coup on les a complètement laissé tomber. On va pas continuer comme ça, et on va pas continuer avec une Europe à plusieurs avec des fachos de temps en temps. Il faut que l'Europe change, parce que moi je suis plutôt fondamentalement européen, mais celle d'aujourd'hui me convient pas du tout. Laquelle on veut construire ensemble,
bah, c'est sur une coquille politique,
sur quelle,
quoi, donc,
ouais, ouais. Sur quelle valeur demain il faut la construire, tout ça sont des enjeux phénoménaux, et donc je pense qu'il va assez rapidement falloir faire des choix, parce que le monde s'accélère quand même. Et qu'on a bien vu à quel point les choses pouvaient se dégrader extrêmement rapidement. Donc, il y a pas. Moi, je porte pas de message spécifique. J'ai des convictions personnelles sur l'ensemble des sujets que j'essaie d'analyser un petit peu. Mais je crois qu'on a une chance absolument phénoménale, quoi. Et je pense surtout que ce sont les entrepreneurs qui vont faire le job une fois de plus.
Les porteurs de projets, comme tu disais, parce qu'avoir des projets, ouais. c'est le salut. Moi, je suis complètement d'accord, évidemment. Bien sûr.
Et puis, on va influencer nos équipes. On va, notre état d'esprit, notre mental, notre morale, notre résilience, notre capacité à gérer des projets. Tu vois, j'ai reçu tout à l'heure un mail d'un type que je connais, j'ai croisé une fois, qui me dit, tiens, tu vois, ma boîte est quasiment à plat, j'ai mis tous mes salariés au chômage partiel. Et puis, je me suis dit, il faut qu'on se réinvente. C'est pas du tout mon métier, mais en 3 semaines, on a créé, en fait, des distributeurs de gel hydroalcoolique avec une pédale sans contact, pas cher, que les mecs pourront installer partout, etc. Chaque fois que j'en vois un, ça me permet de remettre un de mes mecs au boulot. Ils ont retrouvé un projet, une énergie, du sens dans leur truc. C'est à ça qu'on va servir. On va se réinventer. Et puis regarde à quel point les boîtes se sont déjà réinventées. Quand je sais pas si tu as vu l'autre jour un truc qui me fait rire, le drive-in confession. C'est-à-dire que les curés s'installent dans la campagne sur un tabouret, les mecs passent en bagnole et tu fais ta confession. C'est extraordinaire. Quand même les curés se mettent à réinventer le business, mais c'est fabuleux.
C'est incroyable.
Les notaires qui tout d'un coup, une profession qui a 500 ans, qui tout d'un coup te dit, OK, plus de problème, on fait des actes notariés sans présence des mecs.
C'est clair.
On comprend plus rien de ce qui se passe. Le restaurateur du coin qui était là, râlé contre Amazon, machin, qui se met à faire du drive-in, du take-away, du machin, là. C'est génial ce qui est en train de se passer. C'est une espèce d'énergie, mais phénoménale. Et tu as raison, il y a eu de la solidarité. Il y en a eu partout. Il se passe des trucs géniaux. Mais la solidarité risque, je crois sincèrement, si on fait pas attention à la peur physique et à la distanciation qu'on devrait d'ailleurs appeler physique et pas sociale. Parce que je pense qu'il faudrait pas parler de distanciation sociale, parce que distanciation sociale, ça veut dire fuyons
ouais,
les uns les autres.
Les groupes, quoi.
Et distanciation physique, c'est OK, on va faire un peu attention tant qu'il y a peut-être un risque potentiel. Les mots, une fois de plus, vont être vachement importants. Et le courage va reprendre sa vraie... Alors, tu sais que je suis un obsédé du bon courage, mais que je supporte pas cette expression, comme tu le sais. Il y a eu énormément de gens qui m'ont appelé pour dire est-ce qu'on a le droit de le dire en ce moment.
Alors, c'est drôle. Oui, parce que pour les auditeurs qui savent pas, t'as donc écrit un livre, Ne me dites jamais bon courage. Un truc.
Ne me dites plus jamais bon courage.
Voilà, c'est ça.
Qui était un lexique anti-déprime à usage immédiat des Français, avec toutes les expressions à la con, tu sais, ça ne marchera jamais, c'était mieux avant, tiens, voilà, encore une expression qui est en train de devenir d'actualité, d'ailleurs.
C'est clair.
Et qui va d'ailleurs falloir qu'on change. Mais, alors, les gens me disent, est-ce qu'on a le droit de le dire? Parce que tu observeras que ce soit, si tu écoutes encore un peu la radio, la télé, ou dans la rue, le rare gens qu'on croise, c'est la seule phrase du moment, c'est bon courage. Je leur ai dit, écoutez, n'oublions pas un truc, c'est que le courage est fait pour affronter l'adversité. En ce moment, il y en a, donc j'ai réautorisé l'usage temporaire. Bon courage.
J'adore.
mais la seule condition qu'on recommence pas après, parce que ça continuera à nous déprimer. N'oublions jamais la contagion émotionnelle de notre langage. Et on a besoin. Je veux dire, on a vraiment besoin en ce moment de gens qui croient en l'avenir, quoi. Parce que globalement, moi, j'ai pas de sondage, je sais pas comment tu ressens le truc, toi. Est-ce que tu ressens que les gens autour de toi, puisque tu en vois forcément un peu moins en ce moment, mais quand même, tu es très entouré de gens qui te...
Écoute, je pense pas être capable de faire des pronostics, mais je sens bien, si tu veux, que notamment, en fait, il y a deux populations, hein. Enfin, clairement, il y a des personnes qui, naturellement, sont des personnes prudentes, qui érigent le principe de précaution en impératif catégorique, et qui sont plutôt pas très pas très optimiste. Et puis, en fait, ceux qui sont dans l'action, c'est un peu toujours la même chose, si tu veux, sont plus optimistes, mais parce qu'en fait, ils ont pas tellement le choix, je pense. Les porteurs de projets ont pas tellement le choix. Et que, au-delà d'être optimiste, je pense qu'en fait, ils croient fondamentalement que le fait d'agir et le fait d'être un peu dans le, voilà, dans l'effort et dans le fait de toujours être dans l'innovation, on va les sauver, si tu veux. C'est sûr que si t'attends juste que ça passe, ben non, enfin, ça sera jamais positif.
Ouais, c'est sûr. Moi, je me suis pas mal interrogé sur deux, trois trucs aussi sur les startups, etc. C'est que je trouve qu'elles ont été extrêmement absentes pendant cette période. Tu sais, on avait un peu le sentiment qu'elles sauvaient le monde, etc. J'ai lu un article récent, le jour intéressant, quelqu'un disait les startups, au fond, elles nous ont surtout amené des innovations de confort. Ce qui est vrai d'ailleurs, de confort, de déplacement avec Uber, mais on les attendait peut-être sur d'autres choses. C'était assez frappant de voir à quel point, tu te souviens, le transhumanisme, les GAFA qui allaient sauver le monde, etc. Finalement, bah, les data, on les a quasiment pas utilisées dans cette histoire pour le moment, on les a pas vu venir. Et quelque part, c'est assez marrant parce que les startups aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont disparaître. Je pense que toutes celles qui avaient pas de base solide, qui étaient sur des innovations, juste un tout petit peu de petit confort comme ça, vont avoir du mal. Mais en même temps, moi, mon sentiment, c'est qu'il va, il va se trouver une espèce d'explosion malgré tout de nouveaux projets. Et qu'un de nos grands enjeux, je trouve, en tant qu'entrepreneur, c'est que d'accepter, de savoir qu'il y a quand même des mecs qui vont se trouver au bord de la route. Il y a des mecs qui vont pas s'en sortir. Il faut quand même être clair, il faut le dire.
C'est sûr.
Ça paraît évident. Il y en a qui vont traverser pour les autres un enfer. Tu sais, moi, on avait raconté un peu mon histoire de Columbus Café pendant mes 10 années de Columbus, qui ont été un enfer. Enfin, je veux dire, c'était un enfer permanent, mais
oui, j'avais adoré d'ailleurs le fait que tu t'assumes complètement, c'était le fait que c'était une série d'emmerdes sans fin.
Mais j'ai adoré, c'était juste génial. Et je pense que j'avais rappelé à cette occasion que notre job d'entrepreneur, c'est d'importer des emmerdes et d'exporter l'enthousiasme. Et ben voilà, on y est. On aura quand même juste un truc en plus, à mon avis, après, c'est qu'on va devoir faire remonter sur le bateau les mecs qui seront restés sur la route. C'est-à-dire que je crois qu'à un moment, on va avoir une espèce de mission, nous qui allons nous en sortir, parce que, tu sais, moi, mon business, alors, moi, je suis plus entrepreneur en direct, même si je participe à quelques petites entreprises comme ça, mais mon business de faire des conférences, machin, est totalement terminé. Il
n'y
a pas un euro de revenu, enfin, on doit prononcer que pendant un an, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de machin. Bah, je m'interroge moi aussi, puis il se trouve, en plus, ça, je te l'ai jamais dit, mais il se trouve que j'étais en train de créer une nouvelle boîte, en plus, à ce moment-là.
Oui.
Ça me fait chier, parce que j'avais un nouveau projet, que je vais peut-être d'ailleurs reprendre quand tout ça sera un peu calmé. Mais, donc je suis loin d'avoir un bon idée d'entreprendre. Mais je pense qu'on aura un vrai rôle de solidarité entrepreneuriale avec ceux qui seront au bord de la route quand même, parce qu'ils seront là. Notamment les jeunes entrepreneurs qui avaient cru à leurs rêves et qui vont se voir laminés par cette vague, qui n'abandonnent pas. Tu vois, il faut surtout pas qu'on se dise, moi, je crois que plus que jamais, c'est par l'esprit d'entreprise qu'on va s'en sortir, en fait. Et ça, il faut qu'on le démontre, qu'on le démontre par des exemples concrets, etc. Et qu'on n'oublie pas aussi, je pense, tu sais, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, sur ces fameux héros du quotidien. Moi, tu sais, ça m'a beaucoup frappé quand même, cette mise en valeur de gens qu'on regardait pas beaucoup avant, qu'on rémunérait pas forcément bien, pour des raisons objectives. Et là aussi, si tu me demandes un peu un des messages du bouquin, c'est que c'est nous tous qui avons décidé de ce monde qu'on critique aujourd'hui. C'est-à-dire que si on critique la mondialisation, aucun problème, arrêtons. Simplement, le PC de 1000 euros, il va coûter 4000 euros.
Bien sûr.
C'est pas un problème.
Arrête tous d'acheter des iPhones, etc. Quoi.
Voilà, c'est pas du tout un problème. On peut le payer 4000 euros, il n'y a aucun sujet. Simplement, qu'est-ce qu'on va pas acheter d'autre ? Et on peut bien sûr payer les baristas chez Columbus Café plutôt que d'être au SMIC, un SMIC et demi. Mais est-ce que on veut payer notre cappuccino 4 euros? Tout ça sont des choix de société majeurs qu'on a fait.
Bien
on a
sûr.
Quand même, en fait, globalement utilisé des esclaves en Asie pour vivre de manière incroyablement bien depuis 20 ans, et acheter des trucs pas chers, livrés à notre porte en 2 heures, et tout d'un coup on se dit c'est pas bien. Bah oui, mais c'était un choix qu'on a fait tous. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va modifier dans nos valeurs, dans qu'est-ce qui a de l'importance, quels sont les métiers qui ont de la valeur, qu'il va falloir qu'on rémunère différemment, qu'on structure nos boîtes différemment pour ça. Parce que je pense pas il va y avoir un retour de bâton incroyable, à mon avis, sur ces sujets-là. Tous ces métiers, qu'on n'a pas à peine de te les décrire, hein, c'est tous ceux qui nous ont permis de vivre pendant ces quelques mois. On a dit, ils sont géniaux, on s'en occupera après, et que dans 6 mois, on dit, ouais, enfin, maintenant, faut vendre des bagnoles d'abord. Donc, on pourra peut-être commencer à penser un peu autrement, on verra après. Parce que là, on en a pour 20 ans de rond-point brûlé, longtemps. Et légitimement, en plus. Légitimement. Donc on a nous tous là-dessus, je pense, en tant qu'entrepreneur, à repenser
c'est
nos
sûr,
valeurs.
Une vraie parce responsabilité.
On n'a pas tous des boîtes avec des bacs plus 12, etc. Il faut qu'on s'interroge sur, quand on parle de sens, de raison d'être, elle est là aussi la raison d'être aujourd'hui. c'est demain de faire mieux vivre tous ceux qui le méritent, peut-être de repenser un peu nos propres rémunérations. C'est des sujets qui sont des vrais sujets de fond, tu sais, sur lesquels moi franchement, je dis pas que l'on m'occupe pas avant, mais ça m'occupe
moins.
Ouais,
moi. C'était pas ta priorité, je comprends.
Non, mais je pense que c'était celle de personne, malheureusement.
Bien sûr.
Et je pense que c'est bien que tout ça nous arrive. J'ai bien cassé l'ambiance, là.
Non, pas du tout. mais écoute, en tout cas, tu nous fais réfléchir et c'est pour ça que je t'apprécie beaucoup et c'est pour ça que je voulais t'avoir sur le gratin. Donc, merci, Philippe, de nous avoir partagé tout ça. Et donc, je mettrai de toute façon le lien vers ton site, puisque je pense que l'épisode sortira avant que le livre soit publié. Mais ensuite, je referai une piqûre de rappel. Quand même, pour continuer sur le livre, un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que globalement, tu me l'as dit, hein, tu l'as écrit en à peu près 6 semaines, 2 mois. Et du coup, ça m'évoque vraiment comme un marathon, si tu veux, parce que c'est comme, enfin, écrire un livre en 2 mois, c'est comme de courir un marathon en 2 heures, quoi. Je veux dire, il y a pas beaucoup de gens qui y arrivent, si tu veux. Donc, je voulais que tu me racontes précisément, si ça te va, à quoi ressemblait ta journée, comment ça se passe en fait d'écrire un livre de A à Z, même si j'imagine il fait pas 400 pages, mais quand même.
240.
Quand même, voilà, 240. Et puis tu y as mis tout ton cœur et toute ton âme. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer, voilà, précisément, peut-être me donner des outils, comment tu t'es organisé pour être aussi productif sur l'écriture de ce livre ?
Ah, je sais pas si j'ai été. D'abord, moi, depuis le premier jour, je me lève à 6h du mat, 7 jours sur 7. Alors que j'aime qu'une chose dans la vie, c'est faire la grasse matinée. Donc, j'aurais une grande tentation de m'y mettre enfin, de me dire, bon, il n'y a plus d'enjeu, plus de...
Et ça, tu l'as fait justement parce que tu voulais te forcer à écrire le matin, c'est ça ?
Non, je me forçais à une discipline quelconque. Une discipline, d'abord une discipline. Ne pas sombrer. J'aime trop les séries Netflix, quoi. J'aime trop Netflix. Non, mais j'aime trop Netflix et le canapé, quoi, tu vois. Surtout quand je suis pas avec mon épouse qui reste à Paris, j'aurais pu faire que ça, sans être critiqué. Tu vois. Donc, non. Et puis surtout parce que ce dimanche après-midi au soleil qui m'a dit, il faut faire un bouquin si ce que tu es en train de ressentir est en train de se passer. Essaye, on verra bien, en fait. Tu sais jamais s'il y a un bouquin. Tu sais, quand tu prends la plume au début, tu sais jamais si ce que tu vas écrire va avoir quelconque intérêt. Tu commences un petit peu à réfléchir. Donc, déjà, discipline absolue, 6 heures du matin, sans rien changer. On se couche à 1 heure du matin ou à minuit, point final, etc. Ensuite, tous les jours, j'ai bossé. Il n'y a pas une seule journée où je me suis laissé aller. Avec, en plus, bon, évidemment, la vie a continué. Il fallait continuer à faire des conneries, à gérer le quotidien, le business, malgré tout, même s'il n'y en a pas, il y a quand même des tas de choses à faire, etc.
Bien sûr.
Donc, après, effectivement, tu te laisses un peu aller, tu te laisses un peu guider par des choses. Tu t'y mets en permanence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule journée où j'ai pas essayé d'écrire un petit peu.
T'étais plutôt du style, excuse-moi de t'interrompre, à t'organiser des plages horaires, parce que je sais que t'avais quand même le reste de ta vie à côté, tu nous as dit t'occuper de ta maman, etc. Donc, tu faisais en sorte justement de te dire, je sais pas, de 6h à 9h, en gros, je fais ça, et ensuite, je fais une pause, ou t'étais en mode, quand je peux, j'y vais.
Moi qui suis tout sauf normé, qui lorsque j'ai en temps normal, je ne sais jamais ni à quelle heure je déjeune, ni ce que je fais le lendemain, etc., ni quel avion je prends, de quel train je rentre, etc. Là, c'était d'une telle banalité affligeante que j'ai jamais été aussi normé, avec effectivement 6 heures du matin, 7 heures du matin, au boulot, on attaque, etc. Tous les jours, je me suis octroyé mon heure avec mon papier pour aller marcher pendant une heure, un peu autour de mon kilomètre, etc. Je faisais ma petite pause, effectivement, pour aller, comme tu le disais, m'occuper de ma mère, je revenais, etc. Tous les après-midi, tous les soirs. C'était vraiment quasiment du non-stop.
Et t'as aimé cette discipline ou ça t'a plutôt... Je trouve que c'est toujours une question qui m'a un peu fascinée, ça. Parce que moi, je sais pas trop si je suis plutôt quelqu'un de discipliné ou pas. Et moi, si j'aime bien les routines. Et donc, justement, toi qui l'es pas, le fait de le faire, là, tu trouves que ça t'a aidé ou au contraire, en fait, pas tellement?
Ça m'a aidé pour faire le bouquin, pour le sortir. Je vais te dire pourquoi je dis ça, pour le sortir. Mais je commence à me faire chier, là, clairement. Je commence à en avoir ras-le-bol. Moi, j'avoue que j'en peux plus, de cette histoire. Mais simplement, si tu veux, non, dans un bouquin, je vais te dire, c'est bien d'avoir de la pression. Parce que soit c'est l'œuvre de ta vie, et puis tu te dis, bon, il sera prêt quand il sera prêt. Là, en l'occurrence, il y a un vrai sujet. Et je le répète, je prends un vrai risque en ayant décidé de sortir ce livre dans 6 semaines. Parce que 6 semaines, c'est qu'on sera quasiment encore un peu dedans, ce sera le début des vacances, peut-être que personne n'aura envie de dire ça, simplement il faut être très clair, il y aura à partir de septembre 800 bouquins sur l'après, Corona,
c'est sûr.
Et que ou bien tu te dis je serai un des 800 bouquins, ou tu te dis peut-être que le ton que j'essaie d'amener, peut-être que le fait que j'y mets beaucoup de moi-même, de moi dans mes réflexions, mais la façon dont j'ai vécu tout ça, et ma tonalité qui était le même, c'est le même type de tonalité que ne me dites plus jamais bon courage, tout va mal, je vais bien, ce bouquin, avec un bien sûr de l'économie aussi dedans. Tu te dis, bon ben voilà, tu te fous la pression, soit il n'y a pas de bouquin, mais s'il y en a un, il faut le faire vite. Donc du coup, la discipline est acceptable. Mais à titre personnel, je déteste la discipline. Enfin, je veux dire, et puis en plus, je déteste faire tout le temps la même chose, c'est ça le pire. C'est plus ça que la discipline. Ouais. La discipline, je pense que j'y arrive quand même, on est tous obligés d'être disciplinés dans nos vies d'entrepreneurs contraignantes, flippantes, stressantes parfois, etc. Mais cet éternel quotidien renouvelé m'est insupportable. Et puis attends, et la privation de liberté.
Bien sûr. C'est surtout ça, en fait.
Le pire au monde, pour
quelqu'un comme toi, c'est sûr, ça doit pas être facile.
Et la patience, c'est le truc le pire au monde. Mais globalement, ça fait du bien parce que c'est pas éternel, quoi. Donc globalement, non, c'est une discipline. Et puis après, je vais te dire, je dois dire qu'il y a quand même beaucoup de gens intelligents en France qui écrivent des choses intéressantes. Faut le reconnaître quand même si j'avoue que ce sur quoi j'ai complètement décroché, c'est les médias au sens BFM TV et compagnie.
Qui répètent tout le temps la même chose, en tout cas.
C'est juste insupportable. C'est-à-dire que la première semaine, j'étais complètement scotché avec l'écran en permanence et après, je n'ai plus jamais regardé que 2 minutes par jour pour être sûr que je ne faisais pas de choses illégales en sortant sans qu'elle ait un papier nouveau. Mais globalement, je n'ai plus pris aucune info, si ce n'est de lire ce que les gens ont commencé à écrire sur cette période pour m'alimenter, pour voir ce sur quoi j'étais en accord, en désaccord, etc.
Plus des sujets de fond.
Que ça. J'ai lu pas mal d'éditos passionnants, j'ai regardé, etc. Puis petit à petit, tu vois, le bouquin se construit. Puis après, tu prends un vrai plaisir à se dire, oh putain, il y a encore tel truc. Alors tu recherches dans ton, heureusement qu'il y a la fenêtre recherchée, parce que tu te dis, putain, alors, attends, je mets ça. À un moment, je parle de Bolsonaro, et là, je trouve un truc complètement marrant à raconter sur Bolsonaro. Donc tu recherches Bolsonaro, t'en rajoutes une couche, puis t'es content. Puis tu dis, putain, non, c'est pas là qu'il fallait le mettre, donc tu le remontes après. Bah, ça, c'est le bonheur d'écrire un bouquin, et puis de voir petit à petit que tu dis, il y a peut-être un bouquin. Puis après, tu dis, bon, bah, il y a un bouquin. Il est peut-être nul, il est peut-être à chier, mais il y a un bouquin.
J'adore.
C'est comme ça que ça se passe et c'est vachement excitant. Et puis en fait, je vais te dire, je crois que tu m'avais d'ailleurs posé la question quand on a fait notre premier entretien ensemble, c'est que je t'avais dit, moi j'écris des bouquins quand je suis en colère. Et quand j'ai écrit Service Compris, qui était mon masterpice en 1900, alors c'est horrible de dire ça, c'est le vieux papier.
Non, mais
86, c'était le Moyen-Âge, bordel de merde.
Ouais, en fait, t'étais très jeune quand même à l'époque aussi, si je me trompe pas.
Ouais, j'avais 24 ans, mais c'était 500 000 exemplaires d'un bouquin qui était l'ancêtre de la Customer Experience, tu vois, c'était un truc de dingue. Et j'étais vraiment en colère, quoi. Les Français m'énervaient. Je rentrais de New York, ils étaient sympas. Ici, j'étais avec des abrutis qui étaient pas souriants, j'ai voulu les faire sourire. Donc, c'est quand je suis en colère, j'écris des bouquins. Là, j'étais pas en colère. Je me suis dit, il se passe un truc, quoi. Il se passe vraiment un très gros truc. Et c'est peut-être l'occasion refondatrice qu'on attend tous parce que, putain, c'est unique dans l'histoire d'une vie. Je trouve, de génération que nous sommes tous, qu'elle soit la tienne, la mienne, celle d'avant. Non, mais c'est-à-dire qu'on a tout en main pour réinventer un truc. C'est jamais arrivé. Et puis, il y a eu le 11 septembre, on a un peu modifié notre vie avec un peu plus de sécurité dans les aéroports.
Oui, mais c'est sans commune mesure, c'est clair.
Il y a eu les attentats, on s'est dit, c'est difficile, il y a le terrorisme.
Mais c'est ça, tu vois, que je trouve intéressant, c'est tous ces événements-là, sur le coup, étaient perçus comme des événements cliquets. Et en fait, il y a eu un avant, un après, clairement, parce que tu vois, enfin, ne serait-ce que quand tu passes à l'aéroport, maintenant, la sécurité, ça prend
de
façon de vivre. Mais qui est pas si important que ça, quand même, il faut le dire. Et du coup, la grande question, c'est est-ce que là, ça va être suivi vraiment d'un changement fondamental? Parce que les habitudes sont tellement dures à changer.
Ouais, mais je crois que là, il s'est passé un truc. Il s'est vraiment passé un truc.
Philippe, rendez-vous dans quelques années, on refera un épisode dessus.
Non, mais attends, si on était que en France, je dirais ouais, peut-être. Mais attends, là, c'est le monde. C'est le monde. Déjà, le télétravail. Déjà, la capacité à communiquer avec Zoom aujourd'hui ou n'importe quel autre logiciel, puisque Zoom, soit ils règlent leur faille de sécurité, soit ils vont disparaître avec leur succès. Mais là, on va plus se déplacer à New York pour une réunion pendant 2 jours, 1 ou 2 heures et de revenir à Paris. Ça, c'est terminé.
Je suis pas sûre à 100%, tu vois. Parce que, je te donne l'exemple dans le cadre de mon podcast. Là, quand on est en train de parler, le confinement n'est pas terminé en France, mais j'ai beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, refusent de faire des interviews à distance parce qu'elles se sentent pas à l'aise, etc. Et donc, j'attends la fin du confinement, tu vois.
Attends, Pauline, soyons très clairs. Moi, l'autre jour, j'ai fait un truc pour L'Oréal. J'avais fait une conférence pour eux au mois de septembre dernier. J'ai plein de bouquins, ils sont adorables. Ils m'ont dit qu'on a un truc pour les coiffeurs avant qu'ils reprennent. On fait tout, une fois par semaine, deux fois par semaine, un webinar. Il y a 18 coiffeurs qui écoutent ce truc-là, machin, etc. Est-ce que tu peux venir un peu leur donner la pêche, leur dire machin, ça va y arriver, tout ça, etc. J'ai fait ça, donc j'étais comme un con avec moi, face à mon iPhone, tout seul, avec en plus des problèmes.
En train de t'exciter pour motiver les gens, en plus.
Voilà. Ah non, mais attends, mais c'est intéressant parce que justement, tu touches un vrai truc. C'est le cœur de tout, c'est l'humain. Et là, on va avoir un vrai sujet qui est génial. C'est que, à quel point c'est chiant, ces trucs, je suis d'accord avec toi, se retrouver face à un écran avec 15 types sur des grilles qu'on se coupe au fur et à mesure. Moi, pourquoi j'aime faire des conférences? Parce que tu te prends les mecs, tu te les chopes, ils sont pas d'accord, tu le ressens, tu vois la nana ou le mec dans la salle, tu dis, oh putain, celui-là, je vais me le faire parce qu'il a pas compris le truc et tu le reprends, tu parles qu'à lui, sans que... Et ça, c'est un truc que seul l'humain rend possible. Et ces nouvelles technologies, elles sont géniales parce qu'entre temps, elles nous ont quand même permis de bosser. On a continué à bosser. Le monde ne s'est pas totalement arrêté, heureusement. On a continué. Et il y a eu vraiment des choses intéressantes. Tu sais, je sais pas si tu as participé il y a quelques jours à un truc qui s'appelait Rebound avec French Founders. Tu as peut-être suivi ce truc-là.
Non, j'ai été invité, ouais, mais j'ai pas pu.
Alors moi, je l'ai suivi. C'était 17h non-stop. Qui ont démarré en fait à 7h à 8h du matin jusqu'à minuit le jour même, avec 90 intervenants du monde entier, de l'Asie à l'Europe en passant par les États-Unis. Et c'était un peu casse-couille parce qu'à la fin, t'en as marre d'être face à ton écran. Mais c'était absolument passionnant. Et quelque part aujourd'hui, ce sont des outils qui vont perdurer. Les gens vont s'y mettre parce que forcément, ils en ont l'obligation. Mais là où je suis, éventuellement, les gens qui refusent ou qui n'ont pas envie de faire des interviews à distance... C'est que c'est terriblement chiant de pas avoir, là, de pas t'avoir en face de moi, ça m'emmerde.
Ouais, c'est sûr. Tu vois,
c'est moins sympa, de pas te voir réagir, sourire, t'emmerder parce qu'il dit, bah, c'est pas là que je voulais l'emmener, etc.
ça, de toute façon, je savais avec toi, Philippe, que c'est toi qui allais gérer la conversation, donc t'inquiète pas.
Non, mais ça m'emmerde. Moi, j'ai envie de te voir, j'ai envie de voir tes yeux, j'ai envie de voir ton masque, quoi. Tu vois, là, j'ai même pas, je vois rien. Donc, aujourd'hui, ces outils sont indispensables, mais vivement qu'on retrouve nos rencontres. Vivement qu'on retrouve, tu sais, là, tous les conférenciers du monde, tous les gens qui font métier de parler à des publics sont en train de se dire, soit mon métier est mort, soit je dois le réinventer de manière virtuelle. Mais ça donne pas très envie, ni à ceux qui doivent délivrer des messages.
Ouais, et puis même quand t'es dans le public, c'est quand même pas pareil, bien sûr.
Bah, c'est franchement chiant. Mais il faut qu'on fasse avec. Mais voilà, mais je pense que globalement, non, il y a énormément de choses. Je suis beaucoup plus confiant que toi de la multitude des micro-choses qui vont changer dans nos vies à tous.
Écoute, ça, c'est ton optimisme légendaire et je préfère être comme toi, optimiste. Philippe, justement, je voulais te parler de conférences. Donc, je suis hyper contente que tu aies abordé le sujet à plusieurs reprises parce que c'est un thème qu'on n'avait pas justement... Enfin, on n'en avait pas parlé la dernière fois dans la conversation. Pourtant, t'excelles. Dans le sujet de la prise de parole en public, on peut le constater encore aujourd'hui. Je sais pas combien tu as fait de conférences, mais j'imagine des milliers. Et donc, tu es un peu une espèce de Jedi quand même dans la matière.
Or,
non, mais tu vois, et je reçois, moi, de mon côté, beaucoup de demandes de mon audience sur le sujet qui me disent que, ben voilà, elles peuvent être stressées à l'idée de parler en public, que c'est pas évident, qu'elles savent pas gérer le fait de faire une conférence ou de parler publiquement devant un certain nombre de personnes. Ma première question à ce sujet, c'était pour comprendre, est-ce que t'es né bon orateur? Est-ce qu'il y a quand même un truc un peu inné? Ou est-ce que tu l'es devenu? C'est une question qu'on me pose tout le temps. Les gens sont un peu convaincus que t'es de l'autre côté, de l'un ou de l'autre côté de la barrière, tu vois, et que soit, en fait, t'es né bon orateur ou pas. Moi, je suis assez convaincue qu'il y a des gens qui ont une appétence pour ça ou un intérêt, mais que ça se cultive et que ça se travaille. Mais je voulais savoir quel était ton avis là-dessus et puis toi-même, en fait, où tu te situais.
Alors, d'abord, pour faire de bonnes conférences, il faut aimer les gens et il faut avoir envie de faire une conférence. Tu as raison, j'ai fait beaucoup de conférences, probablement entre 3000 et 3500 depuis 1987, 86, sortie du bouquin, en gros depuis que j'ai quitté Columbus, 100 à 120 par an, événements publics, animations, etc.
120 par an, c'est énorme.
Ouais, sans jamais demander à personne de m'inviter, c'est-à-dire que peut-être que les gens trouvaient de l'intérêt parce que j'ai jamais dit invitez-moi, parce que tu sais, une conférence, pour tous ceux d'entre vous qui veulent peut-être en faire un jour, c'est pas un truc qui se vend, c'est un truc qu'on achète. C'est-à-dire, en fait, c'est un produit dont on a envie, mais c'est pas un truc que le conférencier doit vendre. Ça n'existe pas de vendre une conférence. Il faut inverser la mécanique. C'est pas un produit, entre guillemets, normal. Donc c'est un produit un peu atypique. Oui, j'en ai fait beaucoup. Est-ce que je suis bon? J'en sais rien pour autant. Ce que je sais, c'est que je vais te raconter une anecdote. Quand j'étais à l'ESSEC, J'avais un de mes copains qui s'appelle Bernard Spitz, qui est assez connu parce qu'il a été patron des fédérations des assurances, encore vu cette semaine, c'est le patron des GRAC, si tu connais cette association un peu politique. Non. Et on était tous les deux à l'ESSEC. Et moi, j'étais président de la jeune entreprise de l'ESSEC et j'étais aussi président des Mardis de l'ESSEC. Les Mardis de l'ESSEC, c'est une association un peu comme les Matins d'HEC, tu sais, je crois que c'est les Matins d'HEC. Tout à fait, HEC, qui invitait une fois tous les deux mois à peu près des intervenants un peu prestigieux dans l'amphi, le grand amphi de l'ESSEC pour un débat, etc. Et alors moi, je ne supportais même pas l'idée de m'adresser à l'assistante de directeur de l'ESSEC, tu vois, en public, tellement j'étais j'étais pas timide, mais je veux dire, je me prends le micro et Bernard était un mec qui était vachement brillant, le mec, de toute façon, mais il était là, il animait les débats. Alors moi, j'étais le petit besogneux qui organisait le truc, qui invitait les mecs, qui lançait les invitations. J'étais le manager du truc et lui, c'était un peu le mec sur scène. Je me dis, comment ce mec fait pour parler sur scène? Donc, c'est te dire si j'étais pas fait pour ça, en gros. Et puis, deux ans après, j'ai ma petite révolution américaine avec ma copine là-bas. Ensuite, je passe 3 ans à l'expansion comme éditeur du magazine où je passe ma vie à rencontrer des journalistes, des machins. Le bouquin sort. Et puis, il se trouve qu'un matin, Bernard Darty m'appelle pour me dire, voilà, Philippe Locke, j'ai adoré votre bouquin. Est-ce que vous voulez venir en parler dans ma boîte? Tu vois, Bernard Darty qui a inventé la qualité de service, qui invite un petit jeune à la compte 26 ans pour venir parler.
Et qui a deux, trois collaborateurs, quoi.
Voilà. Et du coup, j'ai fait cette conférence avec Bernard Darty, et puis j'ai pris mon pied, mais alors de manière incroyable. Et j'ai retrouvé l'autre jour, ça m'a fait marrer parce que quelqu'un m'a envoyé une conférence que j'avais faite. J'avais 12 ans, en fait, j'en avais 26, je crois, chez Accor, juste après la sortie du bouquin. Ça avait été filmé, alors on n'avait vraiment pas en 4K, tu vois, en termes de qualité. Mais je me suis dit, mais quel culot j'avais à 26 ans de raconter ces conneries. Et en fait, je m'aperçois que j'ai pris mon pied, quoi. Et donc, en fait, je crois qu'il faut pas se forcer surtout, tu vois. C'est que est-ce qu'on peut apprendre? Oui, on peut apprendre à être moins mauvais quand vraiment on est très mauvais. Mais si
il faut kiffer avant toute chose, quoi.
Il faut kiffer, mais à mort. Il faut avoir en face de toi des gens qui ont pas envie de t'écouter ni de t'entendre et qui sont pas d'accord avec toi. Mais c'est pas des conneries. Quand je te disais tout à l'heure que il y a rien qui me fait plus plaisir, bah tu sais, quand on a fait 3500 fois le scanning là, les gens devant toi, tu sais tout ce qui se passe dans leur tête, hein. Ouais. C'est en quelques minutes, tu sais qui est avec toi, qui est pas avec toi. Ouais. Et soit tu te dis, bon bah ceux qui sont pas avec moi, rien à foutre, c'est perdu pour eux de toute façon. Soit tu dis, oh, putain, c'est les mecs que je vais me faire. Tu vois, ouais. Et tu te dis, les mecs sont un peu acquis, donc, et je vais me servir de ceux que je sais acquis contre lui pour que finalement il les ramène avec nous, quoi. Et ça, c'est juste génial. Donc, ça prend un peu de temps pour reconnaître. Ça prend un petit peu d'expérience. Mais en revanche, non, c'est un pur bonheur. Et je vais même te dire que je pense que les gens me disent quand est-ce que ça va s'arrêter. Je dis le jour où j'en aurai ras le bol parce que ça se verra tout de suite. Et à partir de là, bon, j'ai plus besoin que je fasse quoi que ce soit parce que les gens verront que j'en ai marre et que de toute façon, ils en auront bien plus marre que moi. Donc, quelque part, il faut pas se forcer. C'est un truc. Je ne crois pas qu'on soit né avec ça. T'as des gens plus charismatiques que d'autres. T'as des gens plus charmeurs que d'autres. T'as tout ce que tu veux. Mais il faut aimer ça. Il faut aimer convaincre. Et puis il faut aimer les gens.
Et justement, si on rentre quand même un tout petit peu dans les détails pratiques et dans les conseils, j'imagine quand même qu'en 3000-3500 conférences, t'as quelques petites choses que tu t'es appliquées à toi-même qui t'ont aidé. Alors là, la première, je retiens, c'est juste qu'il faut aimer ça et qu'il faut aimer les gens. Et je pense que c'est le meilleur conseil, effectivement, que tu puisses donner. Mais quand même, pour les personnes qui... c'est même pas qu'elles aiment pas ça, c'est que je pense qu'elles aiment ça, mais que malgré tout, tu vois, elles ont tellement peu d'expérience ou qu'elles ont peur, elles ont le trac, quoi, tout simplement. Est-ce que t'aurais quand même des petites astuces ou des améliorations que toi-même tu t'es appliquées pour essayer de progresser?
Bah, d'abord, il y a des choses un peu contre-intuitives, parce que je veux te dire que si je te dis que demain, alors, je vais tous les faire fuir, tes gens qui te demandent des conseils sur les conférences, parce que, je n'ai jamais de ma vie utilisé un PowerPoint. Enfin, c'est le truc complètement dingo. Enfin, tu vois, personne qui fait encore des conférences sans PowerPoint. Et tout le monde nous doit prendre pour un loser absolu. Oui, mais en même temps, ne pas en avoir, c'est un gros avantage, c'est que t'es obligé de capter l'attention différemment. Ouais. Et que, au fond, tu peux, en plus, changer en cours de route pour rattraper le coup quand tu t'aperçois que t'es pas en train de prendre la bonne direction.
Oui, si le public, par exemple, répond pas bien au sujet, hop, tu peux pivoter sur autre chose, ça te laisse plus de flexibilité, quoi.
Et si tu es uniquement drivé par ta présentation PowerPoint où A amène à B, amène à C, c'est un mode de fonctionnement qui va très bien, qui rassure énormément et c'est la raison pour laquelle 99% des gens l'utilisent, sachant qu'ils l'utilisent extraordinairement. Le premier conseil à donner pour malgré tout ceux qui l'utilisent, c'est ne mettez pas dans votre slide ce que vous êtes en train de dire.
Ah bah oui.
Le seul truc qu'il faut mettre, éventuellement, c'est une illustration flashante, impactante, sympa de l'image que vous êtes en train de faire passer, point final. Et éventuellement un chiffre, s'il en faut 3 ou 4, mais à part les chiffres, ça n'a aucun sens d'avoir un PowerPoint ou d'avoir une illustration différente, décalée, rigolote, l'humour. Enfin, ça, c'est le deuxième sujet. Moi, je crois que ça fait quand même... tu sais, je devrais pas dire ça, ça fait ridicule, mais le nombre de gens qui m'ont dit, vous devriez faire du stand-up, ça. Alors que là, en ce moment, j'ai pas du tout, je leur donne pas l'impression que je suis un gars rigolo depuis une heure, mais, ça fait quand même, dans mes interventions, on a tous un peu nos trucs qui marchent bien, tu vois, qui font marrer notre public.
Bien sûr.
Moi, j'ai toujours utilisé l'humour, mais à mort, il m'arrive de déconner, de me marrer, d'avoir des fous rires. Je me suis arrivé à fous rires, je n'arrivais plus à m'arrêter, parce que je me faisais marrer, je pleurais, je me souviens d'une conférence, j'étais en larmes, et les mecs, ça avait créé une espèce d'hilarité générale. On n'arrivait plus à s'arrêter, c'était incroyable. Mais parce que je me marrais. L'humour est important.
Ouais.
Les messages, on les illustre uniquement s'ils sont décalés et s'ils ne sont pas un rappel de ce qu'on est en train de dire. Regardez les gens dans les yeux, captez les gens qui sont vos soutiens, vos supporters. Ouais. Avant d'aller convaincre ceux qui apparemment
n'ont
pas envie d'être là, prenez les 2 ou 3 qui vous aiment bien. Ils vous envoient des tas de signaux, ces 3-là. Et c'est pour eux que vous parlez au début, avant d'aller chercher les autres. Ne soyez pas figé derrière un pupitre, ne soyez jamais assis, ne faites jamais une conférence assis, ça n'existe pas. Si on vous dit oui mais c'est la scène qui est comme ça, non, c'est pas une conférence. On peut être dans un débat, éventuellement tu as dû en faire plein, avec des façons, des desks télé, machin, etc. Ok, t'es sur ta tabouret haut, machin, ça va très bien, mais ça c'est pas une conférence, c'est un débat. Mais dans une conférence, on les prend au corps, quoi. On marche, on bouge.
Il faut les emmener.
Il faut les emmener, il faut les prendre, il faut les ramener, il faut savoir comment ils vont, il faut envoyer des signaux un peu interactifs, il faut de temps en temps dire, allez, lève la main qui pense ça, machin, etc. C'est un échange, et c'est là que Zoom fera jamais le job. Parce que c'est ça l'intérêt de l'exercice, si tu veux. Cette espèce de bonheur de l'échange, en fait. La conférence est un échange. C'est un truc, et tu aimerais qu'ils repartent un tout petit peu, pas moins con parce que c'est extrêmement prétentieux, mais ils ont juste un peu réfléchi à un truc qu'ils n'avaient jamais réfléchi avant, et puis ils ont envie d'aller une étape plus loin sur un truc. Il faut se... Et le trac n'existe pas. Enfin, il existe juste, on peut tous avoir un peu l'appréhension et il faut la garder, mais le trac, ça se vend pour le coup. Je crois vraiment, enfin, on disait, il faut avoir du talent pour vraiment avec le trac, tout ça, c'est collège.
Mais ça se vend comment? Ça se vend grâce à l'habitude? C'est une décision? Tu sais, tu m'avais dit la dernière fois, le bonheur est une décision.
Oui.
Parce qu'il y a quand même des gens juste qui sont prostrés. Moi qui ai quand même beaucoup l'habitude de faire des conférences aussi maintenant, j'en ai pas fait 3500, mais j'en ai fait un certain nombre. C'est marrant parce que je continue quand même, quelques secondes avant d'entrer sur scène, si tu veux, à être, pas main moite, quoi, mais à pas être très bien. Et par contre, une fois que je suis lancée, c'est bon, je suis lancée, voilà. Mais il y a quand même ce petit moment, quoi. Et je sais que pour des personnes, c'est carrément, ils ne peuvent pas. Enfin, ils n'arrivent pas à passer à autre chose.
Et Pauline, ce côté-là, c'est pas du trac, c'est juste normal. C'est juste la petite appréhension. Tu vois, je n'aime pas le mot petit, mais l'appréhension qui te donne du talent. C'est tout. T'as pas, et garde-la. Moi, je l'ai toujours un peu. J'ai toujours un peu. Parce que t'as des événements plus ou moins impressionnants aussi. Tu sais bien, t'as des trucs où si t'as 20 personnes ou t'es à 5000 personnes au Zénith. Tu sais, moi, un jour, j'ai fait. Un truc de dingue. En 92, 13, en un week-end, j'ai fait 3 fois Bercy, 15 000 personnes.
Oh là là.
Le truc, c'est un réseau de vendeurs, ils étaient 45 000 au total.
Quel enfer.
Et c'était en fait un grand proscenium au milieu de Bercy.
Oh là là.
Et j'avais autour de moi 15 000 mecs. Pendant une heure, tout seul, en stand-alone, en fait, comme ça.
Sans presse, là, sans rien. Philippe Bloch lui-même.
Je te jure, 45 000 mètres.
Oh, l'enfer.
Et tu sais ce qui est hallucinant? J'ai découvert le pouvoir d'où venait le fascisme et la raison pour laquelle les dictateurs utilisaient des stades. C'est-à-dire qu'il se passe un truc quand tu as du volume comme ça. C'est-à-dire que quand tu as 200 personnes, bon, il y a du monde. 1000 personnes, il y a un peu plus de monde. 3000 personnes, c'est un zénith, 4000 personnes. Ouais. 15 000 mecs. Tu t'aperçois un truc, c'est le pouvoir que tu as sur les gens et de là où tu peux les emmener. Parce que les masses se comportent comme des masses.
Oui.
C'est-à-dire
qu'il y a une...
si tu les emmènes vers de belles perspectives, tu fais du bien dans le monde. Si tu leur racontes que le juif est un ennemi, que les noirs sont abominables, etc., eh ben ils vont te croire, ces cons-là. Mmh. Et donc quelque part, c'est intéressant parce que tu t'aperçois de l'impact que tu as sur les gens.
Oui, il y a un effet d'entraînement, quoi, de la foule.
Qui est terrible. Mais c'est en même temps la magie du truc. C'est que quand tu arrives à maîtriser ce truc-là et que tu te dis, OK, on a un petit peu la peur, parce que quelque part, tu as de l'influence sur ces gens-là quand tu parles à 15 000 mecs ou même à 3 000, même à 200, en fait. On a tous de l'influence, qui que nous soyons. Donc quelque part, il faut avoir cette espèce de tension au début. Et après, dès que tu la lâches, tu sais, moi, je fais beaucoup d'animations, d'événements. Je veux te dire un truc, quand on fait des répètes les plus pétochards, Ah ben je peux pas, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pris 3 Valium, machin, etc. Et puis tu les lâches plus sur scène après, parce que non mais je te jure, parce que ils ont vaincu ce truc,
ouais.
Et ils voient ce plaisir qu'il y a à convaincre. Donc je crois que s'il y a un truc à retenir, c'est ce putain de plaisir à convaincre. Et à partir de là, ça vainque tous les tracks et ça donne du talent. Et puis dernier truc, bafouiller, on s'en fout. Aucun des mecs dans la salle n'aimerait être à ta place, Coco. Donc c'est pas grave. Il t'admire d'être là, non pas le conférencier dont c'est le métier, mais dans les boîtes, tu sais, quand on fait venir la chef comptable qui va raconter devant ses 3000 copines, etc. Ouais. Elle pète de trop, la chef comptable.
Complètement.
Sauf que les trois autres, les 3000 autres, elles sont admiratives qu'elles soient là.
Ouais.
Donc c'est ça qu'il faut retenir parce que ça donne la bonne énergie. Mais enfin une fois de plus, c'est les relations humaines, quoi. C'est aussi con que ça.
J'adore, Philippe. Dernière question sur le sujet qui m'intéresse à titre personnel, c'est que t'es quelqu'un qui a énormément d'énergie. T'as une mentalité pleine d'énergie. Et je me disais, de temps en temps, quand même, on est un peu moins bien que d'autres jours. Et de temps en temps, on est un peu raplapla. Et pourtant, ça, c'est vraiment d'évidence qu'il faut éviter quand tu montes sur scène. Du coup, ma question, c'est comment est-ce que tu fais pour te mettre dans un état, tu vois, énergique? Ou est-ce qu'en fait, est-ce que de base, quand tu montes sur scène, de toute façon, ça vient, c'est là parce que t'as la foule, etc., qui fait que ça pop up?
Bon, t'as des montées de scène plus difficiles que d'autres, pour être
ouais,
clair.
C'est ça.
Ce à quoi je m'astreins totalement, c'est quand je sens que c'est le moment d'y aller, je m'en vais pendant au moins 10 minutes. C'est-à-dire qu'en clair, tu sais, quand j'arrive le matin dans une convention qui dure la journée et qu'ils insistent pour que je sois là dès le début, pour que j'ai écouté tout ce qui a été dit, pour que je puisse rebondir sur les propos du président, etc., etc., j'y vais. En général, je leur dis non, je resterai un peu au fond, je préfère observer, etc. C'est juste pour qu'on me foute la paix.
Le cancre.
Que je puisse, non, oui, absolument, de toute façon, mais que je puisse, en fait, tranquillou regarder un peu, continuer à faire un peu autre chose pendant ce temps parce que j'ai une capacité à peu près correcte à faire 10 choses en même temps, donc à regarder dans le temps mes mails, écouter ce qui se dit, voir le mec d'à côté, etc. Par contre, avant d'intervenir, moi, je me casse pendant un quart d'heure le temps de penser à autre chose. Parce que quand t'es confiné dans ton truc pendant 3 heures, c'est le mot du moment, avant d'arriver sur scène, quand tu es depuis 3 heures assis dans une salle, tu as zéro énergie.
C'est ça.
Faut savoir. Donc, pas plus les mecs d'ailleurs dans la salle, donc ça se rassure parce qu'ils sont tous sur les mêmes bases. Mais globalement, il faut impérativement se redonner une dose de, ne serait-ce que d'aller prendre l'air, de sortir, d'aller aux toilettes, et puis, on peut redémarrer. Mais c'est très difficile parce qu'une montée de scène peut être effectivement difficile. Et puis, je vais te dire un truc. We never have a chance to give a first impression. C'est-à-dire que
c'est
la façon dont tu montes sur la scène.
C'est clair.
Déjà, tu les as scotchés ou dit, oh putain, on va se faire chier avec celui-là. Donc c'est, non mais attends, tu les vois le penser, quoi, tu vois. Donc, et puis comme le signal, c'est qu'ils prennent leur portable et qu'ils regardent, font leur mail, t'as compris qu'effectivement, ils sont en train de se faire chier. Donc, non, c'est indispensable. Il faut soigner la première et la dernière impression.
C'est ça. Donc, la montée sur scène et les quelques premiers mots sont quand même assez phénoménales et hyper importants pour qu'en fait, les mecs, leur attention soit captée, quoi, concrètement.
Majeur. Et évidemment, le micro, on ne le bouge pas, on le colle sous le menton. Parce que tu sais, t'as remarqué que les gens qui ont pas l'habitude, ils se baladent avec le micro, donc on les entend pas. Et donc, comme j'anime plein d'événements, le premier réflexe qu'on leur donne, c'est le premier conseil, c'est de scotcher le micro sous le menton s'ils n'ont pas un micro cravate ou un micro. Voilà, ce sont des sujets, ça, sont des petits détails. Mais le fond du truc, c'est le bonheur, le plaisir.
Hyper intéressant.
Moi, le vrai conseil, c'est ne faites pas de conférence si ça vous tord l'estomac plus de 20 fois, quoi. Parce qu'au bout de 20 fois, ça tordra 30 fois et 100 fois et pour toujours. Donc, faites autre chose. Écrivez des livres. Par exemple, confinez-vous et écrivez des livres. Non, mais je pense que c'est une des plus belles activités au monde, tu sais, de faire ça. Il se trouve que c'est devenu une activité quasiment à temps plein, mais c'était pas mon seul métier, parce que j'en ai toujours beaucoup en parallèle. Mais c'est un pur bonheur. Tu sais, quand moi, il m'arrive, t'imagines, 3500 personnes, 3500 conférences, c'est plus d'un million de personnes, 2 millions, j'en sais rien, physiquement. Et tout au long de ma vie, je suis jamais dans une salle sans que quelqu'un me raconte une histoire que je lui ai racontée il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans.
C'est trop drôle.
Il me dit, vous savez, l'histoire de la boîte de chocolat de Nestlé que vous racontiez, là. Et moi, j'ai dit, fuck, c'est quoi la boîte de chocolat de Nestlé que le mec me raconte qu'il a marqué?
Toi-même, tu te rappelles pas.
Non, mais, oui, bah, évidemment pas. Et parce qu'en fait, si tu veux, et c'est là aussi que mon conseil aussi, c'est mettez de vous-même dans vos conférences. C'est-à-dire, ne soyez pas que des espèces de machines qui ont bien réfléchi au sujet, etc. Mettez des vraies histoires de la vraie vie. Parce que moi, je m'aperçois que quand tu fais des conférences quel que soit le sujet, les gens retiennent en général ce que tu pensais pas du tout qu'ils avaient retenu. C'est-à-dire que c'est le truc qui, parce qu'il les a marqués, il a rencontré un moment de leur vie, une émotion, un truc qu'ils ont vécu, et ça l'a mis en résonance avec ça. Et ça, ça a changé complètement leur façon de voir le sujet. Et c'est pas ta théorie globale sur l'expérience client, sur le management, sur l'innovation, sur l'intelligence artificielle. C'est que tout d'un coup, t'as touché leur cœur, en fait. Et en fait, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Quand tu veux faire des speeches un peu inspirants, quoi. Sinon, si c'est juste pour effectivement dire, apprendre à coder, etc., c'est un autre sujet, quoi. Mais c'est pas des conférences.
D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, Philippe, que la première fois qu'on s'est rencontrés physiquement, c'était pendant une conférence. Tu t'en rappelles pas, puisque c'était peut-être la 3000ème.
Bien sûr que je m'en souviens. Voilà. Bien sûr.
Au salon des entrepreneurs.
Absolument, et que j'animais en plus.
Tout à fait.
Ah, bah, bien sûr. Bah, tiens, comment pourrais-je t'oublier ?
Ah, bah, ça me fait plaisir. Philippe, vraiment un grand merci pour ton temps. J'ai une dernière question.
C'est moi qui te remercie. C'est un bonheur de te retrouver. Même à distance.
J'ai vraiment, ouais.
J'aurais préféré avec tes yeux en face.
Moi aussi, évidemment, j'aurais préféré, mais ça sera encore à refaire dans quelques années. Comme ça, on pourra relever les pronostics de tout ce qu'on s'est dit. Juste, Philippe...
Les miens sont gagnants.
Je pense, j'espère. En tout cas, j'espère.
L'optimisme vaincra, même si les pandémies sont des ennemis redoutables pour les optimistes. Pardon, je t'ai coupé.
Non, mais pas du tout. Je voulais juste te demander, comme l'usage le veut dans mon podcast, où est-ce qu'on peut te trouver si jamais on te cherche sur le monde merveilleux du web, notamment donc sur ton site internet, etc. Mais quels sont les meilleurs moyens de te contacter ?
Non, le plus simple, si c'est pour mon site philippeblog.com, philippeblogtoutattaché.com. De plus en plus LinkedIn, les gens communiquent beaucoup par LinkedIn. Je suis très réactif sur LinkedIn. Mon mail est sur mon site web, mon téléphone est sur mon site web, bien sûr Twitter, Facebook un peu moins pour moi, je m'en sers moins, mais beaucoup LinkedIn, et puis surtout en direct, vous avez toutes mes coordonnées partout. Avec grand plaisir.
Génial. Philippe, dernier mot sur le livre. Du coup, quand on a enregistré cet épisode de podcast, on est encore confiné, mais tu as prévu de le sortir dans quelques semaines. Est-ce que tu peux nous dire quand même la date officielle et où est-ce qu'on pourra le trouver ?
Tu veux que je donne le titre aussi ?
Bah, avec plaisir. Je le mettrai en tout cas dans les notes de l'épisode.
Alors, on le trouvera partout, puisqu'en fait, tu sais que j'en suis l'éditeur, puisque ça fait 4 bouquins que, en fait, j'édite moi-même, de manière très classique, c'est-à-dire il sera en librairie, il sera partout. Donc, heureusement que je le suis, parce que je peux te dire que dans la...
Mais t'aurais jamais pu le faire dans les temps, en plus, et puis surtout, c'est très dur.
Que dalle. Ouais. Ça aurait peut-être été possible à la rentrée, fin octobre, quand, de toute façon, on sera tous passé à autre chose. Donc, du coup, effectivement, le 2 juillet, je sais pas si c'est le 2 ou le 3, mais en tout cas, c'est début juillet. Alors le titre. Ah. Le titre. Tu sais que je me suis complètement
question. Alors ouais, attends, parce que peut-être qu'on va brainstormer ensemble là, si j'ai bien compris.
Non, parce que je me suis complètement planté sur mon précédent titre. J'ai eu les titres. Moi, ne me dites plus jamais bon quoi. J'étais un bon titre. Les gens avaient aimé. Tout va mal, je vais bien. C'était un bon titre, etc. Service Startup Academy, c'était un titre totalement crétin qui a fait que le bouquin était un échec total parce que les gens pensaient que c'était un bouquin pour créer sa startup. Alors c'était un bouquin qui décortiquait l'univers des startups à l'adaptation de l'ancienne économie. Et un mauvais titre peut planter un bouquin. Donc j'hésite un peu à te donner celui-là. Ah. Mais en tout cas, ça résume un peu ce que j'ai tenté de te faire comprendre tout à l'heure. Le titre, c'est « Ce sera mieux après,
d'accord,
sauf si on est trop con ».
Pas mal. C'est très Philippe Bloch comme titre.
Point d'exclamation.
Très bien.
Et donc, le bouquin vous invite à quoi ? Ben, 15 choix entre deux choses, deux tendances. Selon les choix qu'on fera, ben, on verra bien qui a eu raison. Soit de faire les bons choix, soit d'être un peu con.
J'adore. Génial. Bah, écoute, je mettrai tout ça. En tout cas, je le mettrai encore dans l'introduction et puis dans les notes de l'épisode. Et donc, il sera disponible partout, chez tous les libraires.
12 euros.
12 euros en plus. Parfait. Philippe, merci mille fois.
Je te dis
à bientôt.
C'est un plaisir de te retrouver.
À bientôt, Philippe. Ciao.
À bientôt, Pauline. Ciao, bye bye.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du-6-gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Léniaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles, ou que vous parlez du podcast autour de vous, ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute, et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous, et justement à toutes ces personnes, c'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes, donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.